Midi 15.
RJB Info.
Le journal Alexandre Michler.
Madame, Monsieur, bonjour. Le scandale environnemental du lac bleu au menu du Grand Conseil ce matin. Le législatif bernois a longuement débattu sur cette affaire qui a mené à la mort de milliers de poissons. Deux motions ont été déposées. Lydiane Guenin a suivi les débats. Nous la retrouverons au Rathaus dans quelques instants. Un nouveau moyen d'achat numérique fait son apparition à Bienne. Il s'agit du Bienne Bon. Il a pour objectif de soutenir les commerçants de la ville. Présentation dans ce journal. Un pas de plus pour le mariage pour tous. Le Conseil des États a accepté ce matin d'entrer en matière sur ce texte. Il a toutefois dit oui à une courte majorité et il reste des points de divergence. On fera le point avec notre correspondante sous la coupole fédérale. Le ciel sera nuageux cet après-midi. La limite des chutes de neige sera située entre 400 et 700 mètres. Côté mercure, il ne fera pas plus de 4 degrés au maximum. Le lac bleu était donc au centre des débats du Grand Conseil. Ce matin, le législatif cantonal a longuement débattu de deux motions autour du scandale environnemental. Au mois de mai de cette année, des milliers de poissons ont été retrouvés morts, vraisemblablement à la suite d'erreurs de la BLS qui aurait entreposé des déblais pollués dans une gravière à proximité du lac lors de la rénovation du tunnel du Lötschberg. À Berno Rathaus, on vous retrouve, Lydiane Guenin.
Deux motions ont été débattues. La première émane des Verts et demande la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire à la place de la commission de gestion pour faire la lumière sur la situation, la responsabilité de la BLS et de l'entreprise Marti, mandatée pour gérer l'élimination des déchets. Les partis politiques se sont exprimés tour à tour à la tribune avec le même argument contre cette motion. La commission de gestion est la plus apte à faire cette enquête en raison de son expérience, de ses connaissances et de la possession de moyens humains pour y parvenir. La commission qui a d'ailleurs déjà commencé le travail. Il faudrait donc repartir du point de départ pour former une commission d'enquête parlementaire, ce qui prendrait du temps et coûterait bien plus cher. La motion a donc été largement balayée. Mais le texte suivant de l'UDC demandant de faire la lumière sur ce qui s'est passé dans la région du lac bleu a lui fait l'unanimité. Tous les partis ont conscience qu'il y a eu des manquements et qu'il est maintenant temps de savoir qui est responsable. Le conseil exécutif a également soulevé plusieurs questions, notamment de savoir pourquoi il a fallu autant de temps entre la découverte des poissons morts en mai, la plainte pénale déposée en juillet et la communication publique en septembre. L'exécutif cantonal informe également qu'après avoir testé l'eau de la région, elle ne présente aucun danger pour la population.
Merci Lydiane. Et l'enquête est donc toujours en main de la commission de gestion. Elle espère pouvoir rendre son verdict et faire toute la lumière sur la situation avant la fin de la législature en 2022. Moutier n'aura pas de carnaval l'an prochain. Le comité du carnaval des enfants s'est réuni hier soir pour discuter de la prochaine édition et en raison de la situation sanitaire, il a été décidé de l'annuler. Pour rappel, le carnaval de Moutier est déjà passé à la trappe à la dernière minute cette année en raison du coronavirus. Après le bon de solidarité Bienne pour Bienne, voici le Bienne Bon. Tourisme Bienne Seeland a présenté ce matin ce nouveau moyen d'achat numérique qui a pour objectif de soutenir les commerçants de la ville. En période de coronavirus et à l'approche de Noël, l'action se veut un coup de pouce qui doit permettre de dynamiser les achats, mais pas seulement. Le Bienne Bon veut s'inscrire dans la durée. Et selon le maire de la ville de Bienne, c'est un signal qui montre que la cité seelandaise entre enfin dans l'ère moderne. Eric Fer.
On avait les city bons par le passé en papier, ça c'est vraiment analogue 20e siècle, deuxième moitié 20e siècle. Maintenant, nous profitons de l'élan que l'action de solidarité avait donné cet été pour partir au 21e siècle et élargir tout ça avec ce que nous appelons une vitrine du centre-ville où seront présentés pas seulement ces bons, mais aussi les offres de la gastronomie, du commerce ou de la culture par la suite.
Ce mode de paiement existe déjà dans plusieurs villes en Suisse. Hein. Alors Bienne, on a presque l'impression qu'elle arrive un petit peu tard, non ?
Je ne peux pas nier ce constat, mais vaut mieux tard que jamais. Je reconnais que pendant trop longtemps, on n'avait pas face à la ville, un partenaire uni du côté des commerçants. Il y avait trop d'organisations, trop de structures différentes. Les dernières années, il y a eu des fusions, il y a eu une concentration des forces et ça nous permet maintenant d'aller de l'avant. De toute façon, sans cela, avec les temps qui courent, ça serait impossible.
Le commerce reste le premier bénéficiaire de ces bons d'achat, mais Tourisme Bienne Seeland souhaite leur donner une plus forte résonance en élargissant leur accès à la gastronomie, à la culture et aux offres touristiques de manière générale. Son directeur, Olivier von Allmann.
Bon, en général, le tourisme, il a besoin d'une infrastructure qui fonctionne, d'une infrastructure attractif. Et je crois que si on a les magasins, c'est déjà ça, mais on aimerait aussi aller un peu plus loin avec les organisateurs de la culture, soit aussi les musées et bien sûr les restaurants. Et ce sont aussi des points très très importants pour une offre touristique qui joue.
Voilà, un dossier signé Olivier Zano, les biens bons qui seront disponibles en ligne dès le 8 décembre. Ils pourront être payés directement sur la plateforme bienbon.ch, puis téléchargés ou alors imprimés. Le CAF recommande au canton de Berne de libérer la somme de 268 330 francs pour soutenir 56 projets culturels. La commission culture du Conseil des affaires francophones de Bienne a par ailleurs accueilli divers représentants des milieux culturels, afin de discuter de la situation liée avec la pandémie. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le CAF déclare s'engager activement afin de diminuer l'impact du virus sur le domaine culturel. Il précise qu'il met et mettra tout en œuvre pour le maintien des activités qui sont une richesse particulièrement importante pour notre région et la diversité culturelle du canton de Berne. À vélo et en chanson sur les routes vers l'avenir, Christophe Meyer sort samedi son nouveau roman 2222. Une jeune musicienne et un homme se rencontrent dans un bar et décident, sous forme de défi, de partir en tournée autour du monde à bicyclette, un livre écrit en mode carnet de voyage à quatre mains entre les protagonistes qui s'aventurent sur la route du succès sur fond de désastre écologique. Christophe Meyer était l'invité de nos collègues d'RFJ ce matin et il a écrit son livre. Et pour l'auteur jurassien, eh bien, c'est une forme de liberté.
Pour moi, c'est une forme de liberté, que ce soit en musique ou en écriture. J'ai eu la chance en musique de signer dans deux grandes maisons de disques. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne, mais d'être complètement autonome, moi j'adore. Et là, pour le livre, j'ai signé chez Slatkin, une grande édition romande. Et celui-là, ben voilà, il est autonome, autoproduit, avec ma petite édition Le Chat Grenadine.
De vous auto-éditer, ça permet quand même une bonne diffusion.
Ça permet une diffusion déjà jurassienne au niveau des libraires. Et puis, il faut dire aussi que maintenant, avec Internet, maintenant, ça fait quand même déjà quelques années qu'il y a Internet, hein.
Mais effectivement,
on peut complètement, pour moi, se passer des grandes maisons de disques et éventuellement d'un éditeur. Si on se débrouille un petit peu sur la communication avec Internet maintenant, on arrive à se débrouiller.
Voilà, Christophe Meyer qui répondait à Léon Béret et Stéphanie Chalère. Les informations sur ce nouveau livre 2222 sont à retrouver en lien sur notre site internet rjb.ch. Le projet de mariage pour tous a fait ce matin un pas supplémentaire. Le Conseil des États a accepté à une courte majorité d'entrer en matière sur ce texte qui est entre les mains du Parlement depuis 7 ans maintenant. Le débat a été très fourni. La question principale concerne la conformité du projet avec la Constitution fédérale. Une question déjà soulevée en commission et qui a fait l'objet de plusieurs expertises. Et pourtant, elle continue de diviser les sénateurs et les sénatrices. Les explications à Berne de notre correspondante parlementaire, Hélène.
Le droit au mariage et à la famille est garanti, c'est ce que stipule le texte fondamental de la Suisse. Mais quelle intention avait le législateur au moment de la rédaction de cet article ? Vraisemblablement pas d'ouvrir cette institution aux couples de même sexe, selon le camp conservateur composé du PDC et de l'UDC. Pour que le mariage pour tous soit effectif, il faudrait donc changer la Constitution. Faux, répondent la gauche et une majorité du PLR, dont les romans. Pour eux, le texte ne pourrait pas être plus clair. Ce droit au mariage est ouvert à tous. Il suffirait d'adapter le code civil et les lois y relatives. Plusieurs élus ont précisé qu'il ne s'agissait en aucun cas d'intervenir dans les unions religieuses. Ils ont aussi souligné que l'initiative en faveur du mariage pour tous avait été déposée en 2013 et qu'il était temps d'y répondre sans détour. Cette vision, partagée par le Conseil fédéral, l'a emportée de justesse par 22 voix contre 20 et 2 abstentions. Quelques points doivent encore être tranchés, mais au final, le peuple devrait avoir le dernier mot, un référendum ayant déjà été annoncé contre ce projet.
Voilà, on rappelle que le Conseil national avait accepté ce projet de mariage pour tous en juin. Il avait aussi approuvé l'accès aux dons de sperme pour les couples de femmes. Le Conseil national qui a félicité ce matin le conseiller fédéral Wally Maurer à l'occasion de ses 70 ans. Une vingtaine de conseillers nationaux sont entrés dans la salle avec des ballons rouges à croix suisse. Certains entendent même un happy birthday. L'intéressé s'est montré ravi par cette petite surprise. Les mois d'été se sont révélés favorables pour l'économie suisse. Le produit intérieur brut a bondi de 7,2% au troisième trimestre comparé au partiel précédent. Il a été porté par la demande intérieure et une partie du secteur tertiaire, indique aujourd'hui aujourd'hui le secrétariat d'État à l'économie. Cette hausse intervient après une chute de 8,6% lors des 6 premiers mois de l'année causée par la pandémie de coronavirus. Les chiffres du coronavirus à présent justement. La Suisse qui compte 3802 cas de plus qu'hier selon l'OFSP. 226 personnes ont été hospitalisées, 107 sont décédées. Le taux de positivité s'élève à 19,2%. Les hôpitaux pourront à nouveau être épaulés par l'armée pour faire face à la hausse du nombre de patients atteints du Covid. Le Conseil des États a approuvé aujourd'hui à l'unanimité le déploiement d'un maximum de 2500 militaires d'ici le 31 mars. L'armée pourra participer aux soins de base et traitements généraux, aux prédiagnostics ainsi qu'au dépistage. Et puis un pas de plus vers le vaccin de Moderna. Le laboratoire américain a déposé hier une demande d'autorisation de son vaccin contre le Covid aux États-Unis. De première vaccination pourrait être possible dès ce mois de décembre. Et puis à l'étranger, l'activité manufacturière est à la fête en Chine. Elle a connu le mois dernier sa plus forte progression depuis 10 ans. La deuxième économie mondiale confirme ainsi sa reprise alors qu'elle avait connu un coup de frein au début de l'année en raison de la pandémie.
RGB les midi 26.
Sport. Les Ticino Rockets repassent par la case quarantaine. Un hockeyeur de la formation tessinoise de Swiss League a été testé positif au Covid-19. L'information a été révélée ce matin par la Fédération Suisse de hockey sur glace. Cette pause forcée est préventive en attendant les résultats des tests de l'ensemble de l'effectif. Le match de demain face à Winterthur est reporté. De son côté, le CP Bern se cherche un nouvel entraîneur. L'Austro-Canadien Don Nashpour a démissionné de son poste avec effet immédiat. Le club de hockey sur glace de la capitale l'a annoncé ce matin. Le technicien s'en va pour des raisons personnelles. Il est arrivé cet été à Berne. Les Ours n'ont fêté que 4 succès en 12 matchs cette saison. Le nom du successeur n'est pas encore connu. L'intérim est assuré par l'Autrichien Mario Kogler, actuel entraîneur des M20 Elite. En football, l'équipe de Suisse féminine a son destin entre les mains. Elle joue ce soir à 20h son dernier match des qualifications pour l'Euro 2022. Première de son groupe, la Suisse se rend chez sa dauphine, la Belgique. Les Diablesses Rouges ne comptent qu'un point de retard sur les Suissesses au classement. Un nul suffit donc aux Helvètes pour composter leur ticket. La Suisse qui avait battu la Belgique 2-1 à Thun il y a quelques semaines, elle peut donc aborder ce rendez-vous à Louvain avec une certaine sérénité. L'attaquante de Francfort, Géraldine Reuteler.
On sait que notre situation est un peu mieux que la situation de Belgique parce que pour nous, égalité, ça nous suffit. Après, on est les premières du groupe. Et puis comme ça, on a un peu moins de pression que Belgique, je pense. Tout le monde veut gagner, alors on est une bonne équipe et on peut réussir ça. Alors le premier but, c'est clair qu'on veut gagner ce match. On a des joueuses très, très individuelles. Moi, j'ai des autres forces que je ne sais pas, une autre joueuse. Et ensemble, on peut jouer du bon football.
Voilà le match entre la Belgique et la Suisse. Dernière rencontre de la phase qualificative pour l'Euro féminin 2022. C'est donc ce soir à 20h à Louvain. La reine du cirque blanc ne sera pas présente en Suisse. Michaela Schifrin renonce à prendre part aux épreuves de Coupe du Monde de ski alpin de Saint-Moritz ce week-end. L'américaine préfère se concentrer sur les disciplines techniques. 2 Super G sont au programme samedi et dimanche dans les Grisons. Enfin, sachez pour terminer que Lewis Hamilton est forfait pour le prochain Grand Prix de Formule 1. Le Britannique est positif au coronavirus. Il ne roulera donc pas le week-end prochain sur le circuit de Shakir à Bahreïn. C'est son équipe Mercedes qu'il a indiqué ce matin. Le nom de son remplaçant n'est pas encore connu. Voilà, il est 12h29, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Je vous souhaite une très belle après-midi sur RGB.
Et tiens, dans quelques instants, on va parler ensemble du HCBN, du maillot qu'il reste encore à gagner cette semaine, maillot dédicacé aux couleurs ceylandaises. Et puis, on a avant ça une petite annonce pour vous, des chats à donner. Et au niveau de la météo, on est dans un temps encore très nuageux en ce moment avec des averses, hein, chutes, que ce soit de la pluie ou de la neige, des 400 à 700 mètres. Nous avions ce matin des pluies verglaçantes possibles. Là, normalement, ça devrait être bien. Donc, sur la route, vous faites toujours très attention quand même. On passera en principe un ciel de traîne d'ici cet après-midi avec quelques éclaircies possibles, mais aussi et toujours des averses qui seront d'actualité ici et là avant un retour au sec prévu dans le courant de la soirée. Nous allons aussi continuer la journée avec des températures qui seront à 2 degrés maximum pour Tavannes, Tramelan et Saint-Imier, 3 du côté de Moutier, 4 pour le tour du lac de Bienne, ainsi qu'à Delémont. Et puis la suite de ce programme météo, selon les experts de Météo News, ce sera avec demain un temps souvent nuageux, mais qui va rester généralement sec, mis à part quelques flocons par endroits, peu ou pas d'éclaircies à mettre au programme de ce mercredi. Par contre, des températures fraîches et un peu de bise.